L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Le jeudi, c'est écologie et revoici Eaux et Rivières de Bretagne qui passe au temps de la mare pour bien terminer cette saison. C'est une opération de sensibilisation, le temps de la mare, un moment d'éducation, de création. On a donc demandé à la spécialiste des mares de l'association Anouk Bonjean de nous expliquer la mare de A à Z. Bonjour Anouk.
Bonjour Véronique.
Alors les mares, le temps des mares, c'est une opération qui n'est pas seulement finistérienne, on est d'accord.
Voilà, c'est une opération régionale, donc toutes les antennes d'Eaux et Rivières de Bretagne s'y mettent pour sensibiliser les Bretons à un sujet en lien avec la biodiversité. Donc c'est vraiment très grand public, hein, ça s'adresse à des néophytes et ça traite vraiment des espèces animales, végétales ou alors d'un milieu de vie naturel, aquatique évidemment.
Oui, en lien avec l'eau forcément. Et ça dure quand même 2 ans, c'est long.
Oui, bah parce que en fait les sujets sont vastes. Hein. Et donc on se disait qu'on n'avait jamais assez d'une année pour défricher tout ce qu'il y a à découvrir sur le sujet. Ouais.
Et ça fait longtemps que Eaux et Rivières fait le temps d'eux.
Ça avait commencé avec le temps du saumon et ça fait déjà quasiment 10 ans.
Et donc il y a eu, alors on en a déjà parlé d'ailleurs sur Radio Évasion, qu'est-ce qu'il y a eu comme thème ?
Alors, bah, le temps du saumon, le temps de l'anguille, le temps des oiseaux, le temps des auxiliaires de jardin, le temps des libellules, le temps des grenouilles aussi il y avait eu. Il faut quand même que ce soit des espèces qui parlent. Au grand public. Hein.
C'est pour ça que c'est plus souvent des animaux que des végétaux. Enfin, il y a eu le temps des haies, mais quand c'est le temps des haies, c'est pas forcément... Enfin, il y a les espèces qui composent la haie, mais il y a aussi tous les animaux qui vivent dans la haie. Quoi.
C'est ça. Mmh. Ouais. Il faut quand même que ça donne envie. Et c'est vrai que si on fait... En même temps, le temps des éphémères, c'est possible, hein, mais c'est vrai que sur les...
À quoi ça ressemble un éphémère, déjà? Bon, ça ressemble à un moustique capadelle, c'est ça, non?
Ouais, j'exagère. Une petite libellule. Ah ouais, petite libellule. D'accord. Mais c'est très joli, hein. Mais c'est vrai que tout de suite, on rentrerait dans des sujets beaucoup moins grand public. Quoi. Mmh. Ouais. Mmh. Et c'est dommage, hein, parce qu'il y aurait plein de choses à faire, à dire, mais il y a quand même des espèces comme le martin pêcheur qui attirent plus, ou la loutre, le temps de la loutre, qui attire plus que les insectes. Et c'est bien dommage. Hein, mais
oui,
bon.
Mais c'est comme ça. Alors là, en fait, là, cette fois, ça sera encore un milieu un peu comme le temps des haies. C'est le temps de la mare. Alors, comment c'est choisi le sujet? C'est Eaux et Rivières qui choisit. Hein,
c'est... Oui, voilà, c'est les animateurs d'Eaux et Rivières qui décident ça en discussion, en débat. Souvent, on identifie des enjeux, vraiment. Et c'est vrai que sur les mares, l'année dernière, on a vécu quand même une sécheresse importante, des conditions climatiques importantes qui mettent à mal ce milieu de vie et donc tous ses habitants. Hein, parce que c'est quand le milieu est menacé, tous les habitants, ça fait des réactions en chaîne. Et donc déjà, par les changements de pratique, la mare, c'est un milieu qui tendait à se raréfier.
Alors, il faut peut-être définir la mare. En gros, c'est quoi la surface?
Enfin, c'est... Voilà, une mare, c'est un petit trou d'eau.
Bon, ok.
Voilà, il est alimenté que par des eaux de ruissellement, les eaux de pluie.
Oui, il n'y a pas de rivière qui se jette dedans. Quoi.
Voilà, exactement. Et ça peut faire 4 mètres carrés. Hein.
C'est ouais. Mais c'est relativement permanent, contrairement à une flaque qui va sécher.
Voilà, c'est ça. C'est permanent, c'est ça. On dit que souvent, il faut 8 cm de profondeur pour avoir de l'eau tout le temps dedans, en fait.
Et après, c'est une eau douce, forcément. Hein. On ne parle pas d'eau salée. Je ne sais pas s'il y a des êtres vivants qui peuvent vivre durablement dans une mare d'eau salée, mais...
Non, je sais pas, ouais. C'est lié au littoral, du coup.
Ouais, ouais. C'est ça.
Parce qu'il y a des mares d'eau salée vraiment sur l'estran. Et c'est vraiment des écosystèmes aussi très intéressants à part entière. Hein. Parce qu'en fait, tout s'y fait plus vite. Enfin, c'est des écosystèmes presque accélérés, donc c'est intéressant. Mais pour en revenir à nos mares d'eau douce, On n'a pas besoin d'une grande surface. C'est des écosystèmes très, très, très productifs. On a des planctons qui vont se développer très rapidement dans la colonne d'eau. La vase renferme des milliers de graines de plantes qui vont choisir le bon moment pour sortir. Donc, ça va assez vite aussi à se coloniser.
Quand on dit des planctons pour une mare, c'est quoi, des petites larves d'insectes qu'on ne voit pas à l'œil nu, ou il y a quand même une taille
Le plancton, c'est tout ce qui va être dépendant un peu des courants pour se déplacer. Mais là-dedans, on a plein de choses différentes. On a des espèces végétales et des espèces animales. Et puis, on a aussi vraiment que des espèces de plancton. Puis, on a aussi des espèces qui vont avoir un état larvaire planctonique. Voilà.
Ah oui. Ouais. Parce que le plancton, il se déplace forcément d'une manière ou d'une autre, quoi. Soit par les courants, soit par ses moyens, ses propres moyens.
C'est ça, ouais.
D'accord. Et c'est mangé, évidemment, par d'autres espèces. Alors, ça commence par le plancton, puis après, il y a d'autres espèces plus grosses qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive en deuxième, dans la mare?
Et bah après, on a les insectes. On a des insectes, bien souvent, qui sont amphibies, donc qui vont voler. Coloniser des petits plans d'eau et puis repartir, et puis pondre, repartir. Enfin, c'est, par exemple, on a beaucoup de coléoptères, donc les ditiques.
Donc, coléoptères, ils ressemblent un peu à des genres de petits scarabées, c'est ça?
Ouais,
ils ont des
voilà.
ailes un peu dures, là.
C'est ça, les ailes dures, voilà. Les coccinelles sont des coléoptères. Voilà. Comme les scarabées. Donc le ditique, il est assez impressionnant. Il fait peut-être 3 cm, il est quand même gros.
Il a quelle
mais
couleur
il est noir, brillant, et certaines fois, il a un liseré jaune aussi sur les ailes.
Et ses larves vivent dans la mare, c'est ça?
Les larves et les adultes aussi.
Ah ouais, ouais, d'accord.
On a tout un tas de petites punaises aussi, donc les notonectes, les corises, tout ça. On a aussi d'autres petits coléoptères qui s'appellent des girins et qui vivent vraiment que sur la surface. Ils font des tours et ça fait des petits insectes très brillants qui tournent en rond en fait à la surface de la mare.
Donc, ceux qui ont des longues pattes et qui restent en suspension sur l'eau là.
Ah oui.
Ça c'est quoi comme?
Ceux-là, ils s'appellent les gérisses.
C'est toujours rigolo de les regarder. Ils marchent sur l'eau. Hein.
Ouais. Ils ont des petits poils, en fait, sur les pattes, et c'est comme ça que ça fonctionne, ouais.
Donc, les habitants permanents de la mare, c'est quand même des petits êtres, enfin, des arthropodes, des insectes, c'est ça? Dans une mare, peut y avoir donc des grues, enfin, des amphibiens, on va dire, voilà,
ouais,
au bout d'un moment.
Ouais, voilà. Donc, les amphibiens, on a des tritons. Qui sont très discrets. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, hein, les tritons. C'est vraiment très, très discret. C'est assez petit et ils vivent dans la terre, eux. Hein.
Enfin, les amphibiens, ils ne vivent pas dans la mare, on est d'accord.
Non, voilà. Non. La grenouille verte, elle va y passer quand même. Même les tritons, ils peuvent y passer quand même du temps, mais de toute façon, ils ont toujours besoin du milieu terrestre aussi. Donc un milieu terrestre pour un amphibien, ça peut être un muret de pierre sèche, mais ça peut aussi être un talus, ça peut être des petits terriers, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est des milieux qui se raréfient. Alors non seulement les talus se raréfient, mais les mares aussi.
Ben oui, donc c'est pour ça aussi que vous faites le temps des mares, c'est pour alerter. Et puis parce qu'il y a de la demande, les gens demandent quand même de plus en plus comment est-ce qu'on fait une mare, c'est ça
Alors je ne sais pas s'ils demandent de plus en plus. En tout cas, c'est curieux de se rendre compte que... Bon, après, il y a la volonté de bien faire. Hein. Mais en fait, une mare, c'est quoi? C'est un trou d'eau. En fait, on prend une pelle, on creuse un trou, et puis ça se remplit d'eau, et c'est comme ça, quoi. Alors, bien sûr, il faut avoir...
Il faut avoir quand même de l'argile, enfin, un sol pas trop poreux. Hein. Si on a un sol en sable, ça va peut-être pas marcher. Quoi.
Non, c'est sûr. Après, l'idée, c'est bien de retenir l'eau. Donc, maintenant, on a des bâches.
C'est pas un problème, ça, d'avoir des bâches plastiques, d'ailleurs, pour créer sa mare?
C'est un débat à avoir. Moi, je préconise les bâches en caoutchouc. C'est sûr que si on peut se passer d'une bâche, il faut s'en passer. Maintenant, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment bénéfique d'avoir une mare pour la biodiversité dans son jardin. Vraiment, ça a des effets tout de suite très visibles. Voilà. Le seul problème, c'est que les gens veulent mettre... Enfin, je dis les gens. La majeure partie du temps, il y a la mode des poissons quand même, et on veut mettre des poissons. Et ça, ça va pas du tout, parce qu'une mare, elle est pas faite pour avoir des poissons. Ou alors, ils arrivent quand elle fait déjà une certaine taille et que l'équilibre physico-chimique de l'eau est déjà installé. Mais il y a une mode des poissons. Et ça, c'est un piège, parce que les amphibiens arrivent pour se reproduire dans la mare. Un amphibien, il est pas fidèle à son lieu de reproduction. Hein. Il
ah
va
oui.
là
il faut aller
au
dans
plus
n'importe...
près.
D'accord.
Il va au plus près. Donc vous creusez une mare en hiver, elle se remplit d'eau, et ben au printemps, le triton qui est juste à côté, ou le crapaud, ou la grenouille, bon ben, ils viennent au plus près. Et ben si on met des poissons dedans, les poissons, ils mangent
manger.
Toutes les pontes, quoi.
Ouais,
ouais. Et ça vaut pour les amphibiens, mais pour les libellules aussi. Ça vaut pour tout, en fait, quoi. Et ça fait des eaux très chargées en nitrates, puisque les poissons rejettent beaucoup de déchets. Et souvent, on en met trop, en plus. Parce qu'un poisson, normalement, une mare, c'est de toute façon trop petit, en fait.
Oui, c'est ça. Il faudrait au moins un étang. Un étang, c'est la taille au-dessus, c'est ça, au-dessus de la mare.
Ouais, l'étang, ouais, c'est quand même bien plus grand, ouais, c'est ça.
Après, il y a le lac, etc.
Ouais, ouais.
D'accord. Et donc pour faire, alors les gens qui voudraient faire une mare, donc il faut quelque chose donc pour retenir l'eau, mais il faut quand même que ça soit un peu poreux. Enfin, est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait des petits trous dans la bâche plastique ou non?
Non, surtout pas. D'accord. Parce que l'eau après elle part, et quand il y a des fuites après, la bâche remonte. Ah, l'eau se met entre la bâche et le sol, ça fait pas joli du tout.
D'accord.
Et en plus, c'est vrai que ça fait partie de l'entretien de la mare. À un moment donné, la bâche se perce quand même, quoi. Donc, c'est quand même de l'entretien, hein. C'est vrai, c'est quand même du travail. Il faut l'entretenir, parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un milieu à très forte production, en matière végétale et animale, hein. Donc, elle a vite fait de se combler.
Elle s'en vase, en fait.
Elle s'en vase, voilà, c'est ça. Donc, quand on veut construire une mare, c'est vrai que c'est aussi pas mal de la mettre assez loin des arbres, parce que, enfin...
Ah oui, il y a les feuilles qui vont tomber.
Les feuilles tombent dedans. Ou alors, on peut tendre un filet pendant la période où les feuilles tombent. Parce qu'en même temps, les arbres, avec les chaleurs de l'été qu'on connaît maintenant, ça vaut quand même le coup qu'elles soient ombragées, en fait,
ah
cette
ouais,
mare.
Parce que si la mare... C'est quoi, là? Il y a une température idéale pour la mare, entre guillemets, en termes de biodiversité?
Non, pas forcément. En fait, c'est des milieux où la température de l'eau varie moins vite que la température de l'air. Et les animaux peuvent se déplacer dans la colonne d'eau entre la surface et la profondeur en fonction de ce dont ils ont besoin.
Ils veulent du soleil, ils vont aller un peu à la surface, etc.
Voilà, c'est ça.
Et donc après, en plus, donc la mare, en termes de physionomie, faut pas qu'elle ait des pentes trop raides, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Parce que une mare, ça ne sert pas que aux animaux aquatiques, mais ça va aussi servir à tout un tas de... les oiseaux, ils adorent aller se baigner là-dedans.
Se baigner, carrément.
Ah ouais. Quand on a une mare, c'est assez rigolo d'observer les mésanges, les merles venir prendre leur bain. Et puis, c'est un lieu pour d'abreuvoir, en fait, hein, pour le hérisson, pour...
Et le hérisson qui peut se noyer si les pentes sont trop raides, parce qu'il voilà,
il sait pas... L'écureuil, ouais, oui. Mm-hmm. Alors bon, et puis la salamandre aussi, elle se noie. Donc, pour que les animaux puissent remonter facilement, les pentes douces, c'est vraiment bien. Et puis après, il y a un autre truc auquel on pense pas souvent, c'est que plus on va avoir de variations, donc de profondeur, mais aussi sur la forme de la mare, si on fait un haricot plutôt qu'un rond bien net, eh ben on va avoir une diversité végétale. Et plus on a de plantes différentes, et mieux c'est. Donc quand on a des berges en pente douce, les berges vont être colonisées par des plantes plus ou moins, qui aiment plus ou moins avoir les pieds dans l'eau. Donc ça permet une plus grande diversité d'habitats.
Et donc ces plantes-là, on ne les enlève pas, enfin on les laisse, même si elles risquent de combler la mare, ou c'est un juste milieu à trouver, comment ça se passe?
Il y a quand même une gestion à avoir. C'est un milieu qui est petit. Plus il est petit, le milieu, et plus il faut... plus il va avoir tendance à se combler, s'envaser, et donc se transformer en forêt. Hein. Tout milieu naturel se transforme en forêt. Donc, voilà. Donc, il faut quand même prévoir un entretien.
Donc et c'est quoi avec sa pelle? Enfin, c'est concrètement, c'est quoi?
Alors ça dépend et de la taille et de ce qu'on a mis dans le fond. Mais en gros, ce qu'il faut viser, c'est de maintenir toujours un tiers de la mare en eau. En eau vive, quoi. Enfin, en eau
oui,
vive.
Ça, sachant parler. Qu'on est d'accord, on ne prend pas son tuyau d'arrosage pour remplir sa mare, on attend la pluie.
Non, non, pas question.
C'est vraiment de l'eau de pluie.
C'est vraiment de l'eau de pluie, c'est vachement important parce qu'en plus, dans l'eau du robinet, il y a des produits qui vont détruire les micro-organismes. Donc, c'est vraiment pas. C'est contre-productif. Et en plus de ça. Donc cette eau-là, elle a été traitée, tout ça, tout ça. Et les animaux et les plantes qui vivent dans la mare sont adaptés pour vivre dans un milieu mouvant avec des variations du niveau de l'eau.
Ah,
voilà.
Oui.
Et des variations de température. Enfin, voilà.
D'accord.
Donc, par exemple, dans une rivière, la rivière, elle est faite pour avoir un niveau constant. Mmh. L'hiver, elle déborde dans son lit majeur pour s'épurer. Mais en gros, le niveau d'eau est constant. Alors que pour une mare, eh ben, les espèces sont adaptées à avoir une fois les pieds au sec, une fois être vraiment dans l'eau. Ouais. Voilà.
C'est un peu comme les espèces de bord de mer qui ont l'habitude des marées basses et marées hautes. Sauf que là, c'est évidemment la saisonnalité de la mare, elle est plus
ouais.
lente.
C'est ça.
C'est ça. Et parce qu'il faut. Alors, donc, juste pour terminer sur l'entretien de la mare, donc, on ne prend pas vraiment sa pelle, enfin, on enlève, on gratte la vase. Fin...
Alors, en fait, on a de toute façon tendance à vouloir trop intervenir. Mmh. Donc déjà, on se calme pour commencer. Okay. Si on a un tiers de la mare qui est en eau, ça veut dire que ça va. Voilà. Ensuite, à partir du moment où on commence à avoir vraiment trop de végétation, on va couper la végétation. Donc là, on a juste à couper. On laisse
terrasser. Ouais,
non, on n'arrache pas, on coupe, c'est tout. Et quand vraiment on a trop de plantes et que vraiment ça colonise trop, ça prend trop de place, là on peut arracher, on peut commencer par arracher. Si on constate que le fond est envasé, il faut vraiment attendre, pareil, il faut vraiment attendre, mais on peut là enlever, là c'est à la pelle en fait. Voilà.
Et c'est plutôt forcément l'été,
c'est toujours
quand
par
le niveau est bas, non ?
Alors non, on va vraiment attendre l'automne.
Ah ouais,
comme
d'accord.
ça, là on a. Alors il y aura de toute façon un peu de perte, hein. Voilà. Mais il faut attendre l'automne. Par contre, aussi, c'est pareil, il y a quelque chose qui dérange énormément les propriétaires de mares. C'est ce qu'on appelle les algues filamenteuses. Donc, c'est un phénomène qui est normal. C'est parce qu'en fait, au printemps, les conditions se réunissent pour que la vie naisse et même, je dirais, explose. Et donc, on a une espèce d'amas vert qui n'est pas très joli. Mais qui est, c'est un agglomérat de micro-organismes, de champignons, de bactéries, tout ça.
C'est pas les lentilles d'eau, c'est pas ça, hein.
Non, ouais. non, c'est encore autre chose. Et ça fait pas très joli, quoi, voilà. Mais les tritons pondent dedans, voilà. Et on a vraiment envie de les enlever, ces algues, parce que ça fait moche, quoi. Mais en même temps, c'est l'équilibre physico-chimique qui se fait pour l'été à venir. Et puis, c'est quand même des plantes qui vont oxygéner, qui vont ombrer la mare et qui sont quand même importantes. Puis, c'est une nurserie, quoi. Donc, bon, quand vraiment on n'en peut plus ces algues filamenteuses, on peut les mettre un peu sur le côté.
Ouais, ouais.
Mais c'est plein de pontes, quoi. C'est vraiment dommage. Mais il faut réussir à accepter ça et ça demande aussi de prendre un peu sur soi parce qu'on a envie d'avoir une. Enfin, voilà. Et ça, c'est souvent quand les mares, elles ont été un peu déséquilibrées, donc au tout début, ou alors par exemple, ou quand le milieu est vraiment trop petit, ça fait ça aussi.
Ah, oui.
Quand c'est un peu plus grand, il y a moins de problèmes. Et puis c'est vrai que, par exemple, si on a besoin de curer la mare, on va remuer des choses et c'est vrai qu'après un curage, y aura ce genre de.
Ah ouais.
De trucs, ouais.
De phénomène, quoi.
De phénomène.
Et donc, quand on a créé sa mare, en gros, elle met combien de temps à atteindre un certain équilibre, on va dire, si on n'y touche pas trop
Alors, je vais sortir une phrase de grand savant. L'équilibre n'est qu'un déséquilibre momentanément contrôlé.
D'accord. Donc, il n'y aura jamais d'équilibre. OK.
C'est toujours pareil, en fait. L'équilibre, c'est très précaire. Ça se trouve un moment et puis ça se repère à un autre moment. Et en fait, tout est déséquilibre, tout
ouais.
est équilibre.
Enfin, la mare, c'est un milieu dynamique, quoi. En fait, c'est
hyper
ça.
Dynamique.
Tout le temps. Quelles peuvent être éventuellement les maladies de la mare
La pollution, hein, ça ouais. c'est sûr, quoi. Là, dès qu'on a des produits chimiques qui arrivent là-dedans, c'est fatal. la pollution aux espèces invasives. Hein. Alors, ça fait partie des pollutions, c'est vrai. On peut installer des plantes sur des conseils de copains ou même de jardinerie, parce que ça peut aussi se vendre en jardinerie, ce genre de plantes, qui vont complètement asphyxier le milieu parce que se développer...
Donc les plantes, c'est pareil, on les laisse s'installer toutes seules. Il ne faut mieux pas mettre, quoi.
On peut quand même installer, parce que ça fait plaisir quand même d'installer des plantes. Puis c'est vrai que ça oxygène tout de suite, mais c'est vrai qu'il vaut mieux se servir dans les plantes sauvages, quoi. Uh-huh. Parce que là, en jardinerie, on peut prendre des gros risques, en fait. Uh-huh. Ouais. Dans les pots, il peut y avoir des graines. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ça va assez vite, quoi. Mais c'est vrai qu'on a vu des mares complètement asphyxiées. Puis une fois qu'on commence à avoir une plante invasive, c'est très compliqué de s'en débarrasser. Donc, bon, voilà. Il y a des plantes en plus invasives qui sont très belles. On a envie de les avoir chez soi.
Avec des belles fleurs et tout, mais bon, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe.
Les saisons de la mare, en gros, alors comment elle se comporte, la mare, au fil de l'année?
L'hiver, elle est... L'automne, l'hiver, elle est à l'arrêt. Donc là, les insectes... Enfin, les organismes, ils sont souvent dans la vase au fond de la mare.
Mais c'est quand même là qu'on peut éventuellement la curer un peu, quoi.
Ouais, je dirais septembre-octobre. Tous les amphibiens qui sont partis à ce moment-là, on va avoir des pluies plus abondantes, donc la mare va pouvoir un peu déborder et s'épurer, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup d'eau, ça épure le milieu, en fait, parce que quand il y a moins d'eau, ça concentre aussi les polluants, les choses comme ça. La végétation est à l'arrêt, c'est tout, quoi. Enfin, voilà, l'hiver. Fin d'hiver, il y a milieu d'hiver même, il y a les premières reproductions d'amphibiens qui vont arriver. Donc là, dans une mare, c'est surtout les tritons, hein, en fait.
Ça ressemble à quoi, les œufs de tritons? On peut les voir?
Non, c'est vachement... on peut les voir, mais en fait, c'est vraiment caché dans les plantes. Ils n'ont pas la même stratégie de reproduction que les grenouilles, qui vont faire beaucoup, beaucoup d'œufs d'un coup, où c'est facile de voir des grappes d'œufs, tout ça. Là, on va voir vraiment des œufs un par un. Par contre, c'est transparent et on voit bien la bestiole qui se développe dedans, et c'est très 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 chouette à voir.
Mais un peu plus tard, quoi. Combien de temps?
En 2-3 semaines.
Ah ouais, quand même.
On peut voir, ouais. Le crapaud aussi. Uh-huh. Lui, il fait des chapelets.
Ça, on voit bien.
Voilà. Et puis, ensuite, arrivent les journées plus longues, les températures qui s'adoucissent. Et donc là, on va avoir des plantes qui se développent aussi, hein, qui commencent à fleurir et tout ça. Donc après, on arrive au printemps, une explosion de vie. Hein. Là, il y a vraiment de la vie. C'est les phases aussi larvaires, beaucoup, tout ça. Et puis, en été, là, on va avoir beaucoup de pontes d'insectes.
C'est en été qu'ils pondent.
D'accord. Ouais, voilà. Mmh. Donc, les libellules qui viennent tourner autour de la mare. On a pas mal d'animaux qui vont venir se rafraîchir aussi. Ouais. Et puis, le niveau qui baisse, descend. Ouais. Voilà. Et puis, à l'automne, les amphibiens quittent la mare. Les pluies commencent à re-remplir le bassin. Je pense que j'ai été un peu succincte, mais en gros, c'est à peu près ça.
Non, mais ça nous donne une idée. Ouais. Donc, le moment le plus sonore de la mare, ça sera en été, évidemment, quoi.
Et printemps, printemps-été. Si on parle vraiment de sonore, c'est pour les grenouilles, parce que sinon, il n'y a pas grand monde qui fait du bruit trop là-dedans.
Les petits battements d'ailes de libellules.
Ah ouais, les battements d'ailes, ouais. Oui, parce que l'été, il y a les émergences aussi, ça c'est super à voir. C'est vraiment quand les larves de libellules sortent, elles s'agrippent sur les plantes, elles sortent et elles se métamorphosent. C'est magique, c'est vraiment super à observer, quoi. C'est vraiment génial. Puis c'est pas rare, hein, d'en voir en plus, hein, après-midi, là, au soleil.
Et juste une question, est-ce qu'on risque pas de s'attirer des moustiques quand on a une mare?
C'est une très bonne question, parce que les gens, ils se la posent.
Oui, tout le temps.
Non, les moustiques, ils vont pas pouvoir survivre trop dans la mare, parce qu'il y a plein de prédateurs. Il y a tous les insectes dont j'ai parlé, là, qui vont les manger. En fait, c'est des insectes carnivores, donc voilà. Par contre, les moustiques, ils vont vraiment... Et je le dis parce que je crois qu'en Bretagne, il arrive le moustique tigre. Donc c'est quand même important. Les moustiques vont se développer dans l'eau qui reste dans les bâches, dans les pots de fleurs, toutes ces eaux stagnantes-là. Là.
D'accord.
Et ça, c'est vrai que c'est...
Ça, faut les vider, quoi.
C'est catastrophique. Oui, il faut vraiment vider ça.
Les mettre à l'envers. On a des pots, il faut les mettre à l'envers.
Ouais, d'accord. Et c'est compliqué à faire, hein, parce que dans un jardin, il y en a partout, en fait, des petites caches d'eau comme ça. Mmh.
Mmh. Et donc, le temps de la mare, ça sera l'occasion pour Oué Rivière de Bretagne de refaire des tas d'outils pédagogiques, c'est ça? Donc, qu'est-ce qu'il y aura en gros?
Alors, à chaque fois, on développe une vidéo qui est disponible, qu'on peut voir sur notre site internet. Notre chaîne YouTube, enfin toutes ces choses-là pour voir les vidéos. Donc cette vidéo sera consacrée à comment faire sa mare au naturel. On a déjà un petit livret qui est disponible sur notre site internet qui est très bien fait. Mais en plus avec la vidéo, ça permettra d'être complet. On va pouvoir faire... On publie des petits livrets qui sont souvent dans notre magazine, des petits livrets pédagogiques. Donc là, il y en aura deux à cette occasion. Ils sont plutôt pour les publics adultes en fait, mais voilà, et puis ils sont en téléchargement gratuit sur notre site aussi. On peut aussi retrouver tous les autres livrets qui ont été faits par le passé. Et puis il y aura deux magazines pour les enfants. Notre petit magazine s'appelle Flac. Donc là il y en aura une sur la belle saison de la mare et une sur la saison plus calme de la mare. Avec des activités, tout ça. Il y aura un kamishibai. Donc, les kamishibai, c'est des histoires à raconter aux enfants, ou aux adultes d'ailleurs, aux grands enfants. Mais c'est pour des publics. Enfin, c'est pour des groupes en fait. Donc, c'est très chouette. On va aussi faire un jeu sur les réseaux sociaux avec un animal mystère à découvrir. Tous les jours, ou toutes les semaines, non, peut-être toutes les semaines, je vais rajouter du travail aux collègues. Et puis, forcément, hein, des sorties nature, des animations grand public, des soirées, débats, visionnage de films. On pourra peut-être participer à des opérations sur des crapauducs, par exemple.
C'est des couloirs pour les crapauds.
Voilà, faire traverser les crapauds. Et puis, j'oublie certainement plein de choses.
D'accord, on ira sur le site internet de Rivière de Bretagne pour voir tout ça pendant 2 ans, donc.
Voilà, c'est ça.
Merci, Anouk.
Merci.
Et si vous n'en avez pas marre, Davy Andrazik va vous proposer plusieurs émissions sur les saisons de la mare dans le LEM du vendredi. Alors, le 31 mars, c'était la mare au printemps. Le 23 juin, ce sera la mare en été. Et on continuera, bien sûr, à la rentrée avec Eau et Rivière de Bretagne.